Bon, est-ce que tu vas sauver la planète?
Oui, monsieur. C'est bien pas cette semaine, par exemple. Je suis bien occupé cette semaine. Okay. Fait qu'il y a un article dans Le Point qui c'est un commentaire qui a été fait par, j'ai pas retenu le nom du gars, mais...
Martin Budgery.
Martin, il dit, écoute, premièrement, pas vrai que ça va si mal que ça. Ça allait bien plus mal au Moyen-Âge. On a déforesté le monde entier au 18e siècle. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas trouvé le charbon, fait qu'on n'avait pas trouvé le pétrole. Alors, on rasait les forêts pour se chauffer. Puis c'est le cas actuellement dans l'Afrique subsaharienne. C'est le cas aussi en Haïti, où il reste pratiquement plus de forestation, de forêt. Et parce que les gens utilisent le bois au quotidien. Alors là, il dit, on est quand même mieux qu'à cette époque-là où les lampes marchaient avec l'huile de baleine. Il y a eu un progrès. Il faut continuer de faire confiance au progrès. Première chose qu'il dit. Deuxième chose, il nomme certaines technologies qui peuvent nous sauver. La première, c'est le nucléaire. Puis il dit, si vous pensez qu'on va décarboniser le monde d'ici 2050, là, pensez-y deux fois. Là. Décarboniser, là, ça veut dire là, que dans le monde entier, on consomme plus de charbon et de pétrole. On n'est pas parti pour ça. Et les efforts des écologistes pour y arriver sont risibles. Il y a raison. Regarde au Québec, là. Tous les gains qu'on a fait en matière d'environnement sont liés à deux choses. Un, l'augmentation des coûts du pétrole ont fait que c'était plus facile pour l'électricité de concurrencer le mazout dans le chauffage et dans les procédés industriels. Et deux, on a désindustrialisé le Québec. Maintenant, nos biens de production sont faits en Asie puis sont transportés ici. Or, dans le calcul des gaz à effet de serre, tu calcules les gaz à effet de serre là où les produits sont produits et non pas là où ils sont consommés. Fait que toi, tu peux même t'acheter tout ce que tu veux. Si c'est fait en Chine ou en Philippines, en Indonésie, aux États-Unis, c'est pas nous qui mettons ça sur notre bilan. C'est ça qui a fait diminuer. Nos efforts personnels, ils n'ont rien fait diminuer. Au contraire, ils ont fait augmenter notre consommation. Fait qu'on n'est pas parti pour régler le problème.
Pendant les vacances, je me suis tapé pas mal de revues de magazines et c'était pas le seul article qui allait dans ce sens-là. Il y a Paul Krugman du New York Times qui est un chroniqueur que j'aime beaucoup qui a écrit un article qui s'appelle Australia shows us the road to hell. L'Australie nous a montré la direction vers l'enfer. Et son point est assez intéressant. Il dit écoutez, là on est face à une catastrophe absolument incroyable. Des millions de koalas qui sont morts. Et malgré ça, la presse de droite, dirigée là-bas par quelqu'un qui s'appelle Rupert Murdoch, continuez à appeler les Greenies, les rend responsables, dit les Greenies sont responsables parce que c'est eux qui ont empêché de couper des arbres. Okay?
Oh my God.
Et ça, ce que ça nous dit, je pense, c'est assez intéressant, c'est que la réaction de la presse, la réaction de la population est plus terrifiante que ce qui s'est réellement passé en Australie. Et ça nous explique à quel point est-ce que le fossé est grand entre la volonté d'agir et les gestes engendrés par la communauté scientifique et par des gens comme Greta Thunberg et la réalité. Moi, j'ai l'impression que les scientifiques ont atteint leur apogée. Ils sont en train aujourd'hui de générer des rendements décroissants dans la population parce qu'il y a un braquage de plus en plus important qui se fait contre les environnementalistes.
Prenons des exemples. J'ai vu la semaine dernière l'étude là, sur l'étalement urbain. Okay? Mm-hmm. Je reçois un courriel là, d'un père d'une jeune famille. Il dit, moi, là, je suis pas capable d'acheter une maison à Montréal. Je suis pas capable de même trouver un appartement convenable pour une famille de quatre à Montréal, qu'il y ait de l'allure et que ça soit abordable. Ben c'est sûr, il dit, je vais aller me trouver un terrain quelque part, puis la maison, tu peux-tu le blâmer?
Non, tu peux pas le blâmer.
Comment tu vas régler ça? Tu peux pas.
Il y a quand même des solutions. À Paris, où ça coûte une fortune, à Stockholm, où ça coûte encore plus cher, parce que Stockholm est tout petit, puis peu de logements, la place du logement subventionné a pris beaucoup d'espace. Donc, c'est 50 % de logements subventionnés à Stockholm. C'est la seule façon d'habiter Stockholm. Tu peux pas. Et pour faire ça, ben il faut revoir aussi notre façon d'habiter. Ils n'habitent pas dans un bungalow avec une piscine. Là. Ça va être un bloc appartement beau sur le bas. Tu peux en faire des beaux. Là. Les gens ont tout le temps des doutes. Oui, tu peux en faire des beaux avec balcon en avant, balcon en arrière, traversant, pièces de rangement, une chambre pour chaque personne, etc. Salle communautaire au rez-de-chaussée, local pour faire des réparations aussi. J'en ai vu à Vienne, j'en ai vu un peu partout en Autriche. Il y en a des très, très beaux logements subventionnés. Et l'État rentre dans son argent. Tu construis moins d'autoroutes, puis ils sont facturés.
T'as raison, Luc, mais changer les comportements de 7 milliards de personnes, là, okay, ça prendra pas 5 ans. Okay? Quand tu veux virer un bateau de bord, ça, c'est différent que de virer le 7 milliards. Et
C'est mon principal argument pour la suite, mais je te laisse aller.
Mais les conclusions aujourd'hui, c'est de dire la chose suivante. On doit jouer, on doit faire du judo avec les gens du le monde des affaires, avec les gens de droite. Il faut qu'on trouve comment est-ce qu'on va faire du judo avec eux. Et la façon d'y arriver, c'est de faire un peu ce qui est arrivé à la sortie de la guerre, de faire un New Deal, un Green New Deal, et de dire on va mettre des milliards de dollars, tout le monde va avoir des emplois, et on va créer une économie, on va créer une surchauffe économique, mais on va aller permettre de sauver l'environnement. Et donc, il faut être capable de jouer avec ça, arrêter de faire peur, de sortir les épouvantails, et trouvons une autre façon de parler à ce monde-là, de parler à notre génération, et d'arriver à une planète plus verte.
Tout ce que tu dis là juste avant, c'est quoi les climato
comment tu dis ça?
Non, pas sceptiques.
Attentistes. Les climato attentistes.
Anxieux.
Les climato anxieux là, okay. Sont en train sont en train de faire peur au monde et ils sont détrimentaux, ok, à la cause qui est de décarboniser la planète.
Alors les anxieux sont.
On se nuit quoi.
Vous vous nuisez. vous nuisez.
C'est correct. Mais j'accepte l'argument, mais l'affaire c'est que. Il n'y a pas de solution. C'est que la solution qui est proposée par ce gars-là, ou la tienne, par exemple, le Green New Deal, qui est la solution du Parti démocratique aux États-Unis, la solution de Biden et encore plus de Sanders, ou la solution de notre gars dont j'ai encore oublié le nom dans le point qui dit faisons du nucléaire un peu partout dans le monde puis on va faire de l'énergie pas chère. Ces solutions-là, c'est bon pour un horizon 8-10 ans. Tu sais, c'est une usine nucléaire, tu ne fais pas ça en claquant des doigts. Puis ton Green New Deal non plus, tu ne fais pas ça. Or, il y a quelque chose que personne ne comprend dans le climat. Moi non plus, je ne le comprenais pas. On me l'a expliqué 10 fois. C'est la question des points de non-retour. La question des points, c'est pas pour rien qu'on a choisi le 1,5 degré. Là. C'est pas 1,5, 2, toi, t'aimerais ça comment?
2,1.
Un peu plus 2,1, chaud, 2,1. Ouais, c'est ça. C'est à partir de 1,5, c'est les points de non-retour. Puis c'est trop tard. Il va être trop tard. Si on franchit le 1,5, après ça, il est trop tard. Donc.
Les technologies vont régler ça.
Oui, monsieur.
Bon, je semblais logique. Je trouvais que ça prenait du temps à sortir, fait que je me suis permis. Merci, à demain. 8h56. La Rive-Sud, oui.